93.
Il est très souvent question d'attaque informatique, de fuite de données personnelles, de fraude et compagnie ces temps-ci, Jeff. Mais ce qu'on apprenait dans le journal ce matin me semble pas anecdotique du tout. Au moins 3 tentatives d'intrusion dans les serveurs informatiques de Revenu Québec. Et là, il y a eu l'histoire de la dame qui travaillait à Revenu Québec, qui a ramené des données, en tout cas les données de 23 000 employés
chez collègues,
elle.
Exact.
Ça, c'est une chose. Mais là, c'est des attaques qui semblent venir de l'externe. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? C'est la question que je vais poser à Paul Laurier, qui est président de Vigitech, et c'est un ex-enquêteur informatique à la Sûreté du Québec. Bonjour, Monsieur Laurier.
Bonjour.
Alors, ces trois tentatives d'attaque-là à Revenu Québec, j'ai raison de penser que c'est pas anecdotique?
Non, c'est pas anecdotique, c'est structuré, c'est planifié, c'est vraiment des déterminer qui en est l'auteur. On peut avoir des hypothèses, mais
ouais, parce que là, l'histoire de l'interne, c'est une chose, là, la dame qui était partie avec des données, mais là, ça vient de l'externe. Donc, est-ce qu'on a des théories?
Ben, il y a plusieurs théories. On sait évidemment celle qui est la plus probable. Je vous dirais qu'on est depuis la mise en accusation, en fait l'arrestation de la vice-présidence vice-présidente de chez Huawei pour l'extradition. On sait que les Chinois ont fortement réagi. Il y a des gens qui ont été arrêtés et les Chinois sont extrêmement habiles en informatique. Huawei est un géant. Le 5G s'en vient. Donc il y a plein d'enjeux, je vous dirais, technologiques. Et on peut penser que c'est la cible de Revenu Québec, c'est une cible potentielle parce que c'est des infrastructures qu'on peut qualifier de critiques. Hein. C'est de l'information. Comme citoyen, vous avez l'obligation de divulguer certains renseignements, mais quand vous faites votre déclaration d'impôt, vous divulguez énormément d'informations, que vous soyez citoyen ou entreprise, vous avez des déductions fiscales, vous avez des reçus d'impôts, vous avez on connaît votre famille, vous avez des crédits pour la recherche et le développement, si vous avez des... Donc, ça va très, 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 très loin. C'est une infrastructure qui est intéressante au niveau du piratage, au niveau de l'information qu'on peut aller recueillir et après ça, se servir et croiser et se servir lors de négociations futures pour des entreprises ou pour des gouvernements. Donc, c'est extrêmement sensible comme information. Et puis, c'est sûr qu'il y a dans l'article, on parle, il y a de la collaboration du FBI et du Centre de sécurité des télécommunications. On parle d'un groupe chinois très, très actif présentement.
OK. Mais donc, les intentions d'un groupe comme ce groupe-là, là, qui est cité dans le journal, là, APT10, par exemple, là, c'est quoi leurs intentions? C'est d'ébranler les institutions d'un pays ciblé ou c'est littéralement de récolter ces données-là pour les utiliser à mauvais escient?
Toutes ces réponses sont bonnes. Oh. Les pirates informatiques et tactiques, faut comprendre que ces gens-là, le crime organisé est présent dans le dark web, et si on va encore plus loin dans la couche, on va parler du web politique ou du web, je vous dirais, étatique. Donc, il y a des pirates qui sont formés étatiquement pour glaner cette information-là, et la fin de semaine, ils peuvent avoir des petits extras et monnayer certaines informations qu'eux-mêmes vont garder. Ouais. Donc, les pirates, c'est pas un groupe homogène. Hein. Quand on parle de piratage, c'est pas nécessairement un groupe homogène. Il y a plusieurs types de piratage. Mais quand vous arrivez dans des infrastructures, si j'attaque le Revenu Québec, c'est certain que je m'attends à avoir d'informations extrêmement structurées. Je m'attends aussi à avoir un système qui est relativement peu poreux, mais je vais trouver des faiblesses parce que je les connais, parce qu'il y a des appareils électroniques vont répondre. Ouais. Il y a des types de réponses. Hein, c'est des portes. Un ordinateur, c'est 65 000 portes. Hein, automatiquement, je vais frapper à des portes. Et la réglementation, malheureusement, au niveau mondial, on n'est pas là encore. Là, on réalise qu'il va falloir resserrer les règlements, resserrer l'autoroute d'information qui est Internet, parce que franchement, c'est le Far West.
Pour les gens qui sont à l'interne chez Revenu Québec et au gouvernement du Québec, est-ce qu'on peut se servir de ces tentatives-là pour renforcer certains points d'accès qui pourraient être vulnérables actuellement?
Confirmer qu'il doit y avoir une cellule de crise à l'intérieur, on est à déterminer est-ce que... Parce qu'on peut bloquer des tentatives, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas, il n'y a pas eu de succès dans des pénétrations au niveau informatique. Donc, on est à vérifier si on est un blindé de l'extérieur, mais voir, on est sûrement en train de regarder à l'intérieur s'il y a une information qui a coulé. Et puis ça, c'est des cellules de crise qui sont à l'intérieur. Et présentement, en plus, avec le dossier d'il y a deux semaines, où on a une fuite interne, je vous dirais que on doit prendre la situation très, très au sérieux. Du moins, je l'espère, mais j'en suis certain quand même, Revenu Québec est rendu une agence. Il y a des gens qui sont qualifiés à l'intérieur. Maintenant, est-ce qu'on écoute ces gens-là quand on demande des budgets, quand on veut avoir des services, on va aller... Parce que la sécurité, c'est comme la sécurité physique, c'est une dépense. Et ces gens-là ont approuvé que c'est nécessaire. Et puis, si je vous parle de cyberattaque, ben c'est pas nécessairement tous les gens qui vont comprendre l'implication. Là, on le voit, l'implication. Et je l'ai déjà dit, les attaques n'iront pas en diminuant. Oui. Il y a des données qui se multiplient par 10, par 100, par 1 million avec les nouvelles technologies. Et puis, sécuriser toutes ces informations-là, c'est compliqué. Ça prend de l'espace, ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend surtout des gens qualifiés.
Vous avez travaillé à la Sûreté du Québec, vous êtes maintenant consultant. Considérez-vous qu'à l'interne, dans la fonction publique québécoise, on a les ressources nécessaires pour sécuriser nos données personnelles ou est-ce qu'on fait un peu trop appel à l'externe?
Ben, je vous dirais que les dernières années, si on parle de bordel informatique, on n'a pas, et puis le gouvernement libéral a réagi. Après ça, t'as le gouvernement caquiste qui arrive, veut donner des données, veut donner des services, veut faire de l'impartition de services. Oui. Ça a toujours été, il faut pas qu'il arrive ce qui est arrivé au ministère des Transports. On le voit, l'état de nos routes. Ben, la route électronique, c'est exactement pareil. Si vous donnez votre connaissance, vous laissez aller votre connaissance à l'externe, vous donnez ça à des consultants, ben, il n'y a plus à l'interne des gens qui sont capables de mettre le pied à terre ou d'avoir des affirmations face à un conseil d'administration. Eh ben, là, c'est des enjeux, c'est des négociations, puis on va aller au moins cher et on voit ce que ça donne le moins cher.
Parce que vous faites bien de le mentionner, hein. 80% des données, des informations des centres gouvernementaux, le gouvernement Legault veut les confier à des secteurs à des serveurs plutôt du secteur privé. Trouvez-vous ça inquiétant qu'on justement on laisse ces informations-là ou est-ce qu'on devrait les garder à l'interne, compte tenu du fait qu'on est vulnérable quand même? On le voit là, à Revenu Québec, on a eu 3 tentatives d'intrusion.
Ben moi, ce que je dis, c'est je vais parler, et sans faire de politique, je vais parler d'une chose, de souveraineté des données. Si on n'est pas capable à l'interne ou si on juge que les ressources sont pas assez suffisantes, il faut faire appel au privé. Moi, je pense qu'on est capable de faire exactement. On vient de faire le pont Champlain à Montréal. Excusez, on va faire une infrastructure aussi à Québec. Ben, il y a des consortiums qui existent. Et le savoir, ça se concentre. Il y a moyen de le faire. Puis là, je sais que les partenariats publics-privés, c'est pas à la mode. Ça n'a pas toujours été jojo. Mais je vous dirais que la souveraineté des données, c'est la chose la plus importante. Si vous confiez vos données à une organisation extraterritoriale, bonne chance pour conserver l'intégrité, parce que ces gens-là, si on parle des Américains, sont soumis à 17 agences de renseignement qui vont avoir le pouvoir de venir voir des données plus facilement parce que le Patriot Act va donner énormément de pouvoir à ces agences de renseignement-là. Donc moi, je parle de sécurité des données. Si on veut confier au public, au privé des données, oui, ça peut être une solution, mais la souveraineté des données, ça doit être la première chose. Ces données-là doivent rester à l'interne, doivent rester au Québec, doivent être sécurisées dans des endroits qu'on va connaître, blindés, avec toute le tralala qui vient avec, l'infrastructure qui vient avec. Mais pour moi, aller donner des données à des puissances étrangères, c'est se tirer dans le pied.
Monsieur Laurier, il y a des élections qui s'en viennent. Est-ce qu'on est prêt à faire face à ce genre d'attaque-là en période électorale?
Ben, il y a déjà des signes importants. Puis on le voit, là, Hong Kong, qui est quand même pas le dernier venu, on voit qu'il y a de l'influence sur les réseaux sociaux. Il va avoir de l'influence des réseaux sociaux. Il va avoir des puissances étrangères qui vont se manifester. Et puis encore là, quand je parle de réglementation, comment ça se fait que Facebook, Google, Microsoft, le GAFA de ce monde permettent l'authentification, la création de courriels, de fausses identités? C'est des choses simples, c'est pas compliqué. C'est d'être capable de réglementer, de dire ben des courriels de Gmail ou des Hotmail puis c'est comme ça qu'on crée des faux comptes, c'est comme ça qu'on va créer des fausses influences, puis c'est facile créer des faux profils. Alors, c'est des réglementations simples, mais Ça, c'est de niveau mondial. C'est sûr, pour revenir à la question, les prochaines élections, il va y avoir une interférence. C'est certain, certain, certain. C'est écrit dans le ciel.
Si on regarde à travers les époques, là, la façon de se faire la guerre a toujours évolué. Là, les grandes campagnes, les guerres de tranchées, les technologies ont évolué. Depuis le début des années 2000, là, la façon de se faire la guerre, c'est le terrorisme. Là. Me trompes-tu ou bien... On pourra dire à un moment donné que les années 2020 et plus, là, la façon de se faire la guerre, c'était du cyberterrorisme?
Ben, en fait, moi, je vous dirais que le nerf de la guerre, ça a toujours été le renseignement. Hein. Quand vous débarquez, quand vous faites un débarquement qui soit dans les années, dans n'importe quelle époque dans le monde, quand vous allez faire une action militaire, si vous savez ce qu'il y a de l'autre bord, c'est le nerf de la guerre, c'est le renseignement. Ben, le renseignement électronique, les renseignements personnels, la possession de données numériques sur les individus, ça fait partie de la nouvelle réalité, ça fait partie de la guerre. Pas de blessés, pas de, y a pas de sang, c'est transparent. Les gens qui vont travailler ce matin ont aucune idée que ça se passe. Aller sur les moteurs de recherche, regardez, il y a des attaques en temps réel. Si vous cherchez les bons mots-clés, vous allez trouver. Vous allez voir que ça existe et c'est des milliers et des millions d'attaques à la seconde. Bon, c'est réel, c'est là. Et ça, c'est des robots qui sont programmés pour aller chercher l'information, gagner de l'information qui corroborer quand vous avez des croisements de données. Si j'ai Paul Laurier chez Desjardins, j'ai Paul Laurier à Revenu Québec, puis j'ai Paul Laurier sur Facebook, ben j'ai pas mal une bonne idée du personnage.
Ah oui. Hein,
c'est... J'ai la totale, on s'entend, c'est ce que les puissances étrangères veulent avoir de l'information, puis je vais pouvoir m'en servir économiquement si mon entreprise a des secrets industriels, c'est dans les informations, il y a plein d'informations qu'on peut dériver, et ça fait partie de la guerre. L'information devient du renseignement, et un bon renseignement va vous donner un gagnant puis un perdant à la guerre. Là, celui qui sait ce qu'il fait d'avance, qui va se déplacer systématiquement, elle va gagner la guerre. Et malheureusement, le Canada, on n'est pas en avance.
Ouais.
On va être des victimes là-dedans.
On nous mentionne, M. Laurier, qu'il y a des compagnies qui embauchent, les Anglos appellent ça des white hats, des pirates blancs, par exemple, des pirates éthiques, qui vont essayer d'entrer dans les bases de données et qui vont pouvoir identifier les brèches, justement. Pensez-vous que c'est une avenue qu'on pourrait envisager du côté de Revenu Québec ou pour les données personnelles des Québécois, d'embaucher des gens qui essayent de rentrer pour nous dire « Hey, attention, à tel endroit, c'est dangereux ».
Ben, je vous dirais que comme il y a déjà des spécialistes de la sécurité à l'interne, ces gens-là sont clairement identifiés. Le piratage, j'ai été formé par le FBI dans les années 2000. Il y a rien de secret, là. C'est pas, vous engagez pas quelqu'un, c'est pas quelqu'un avec les lunettes épaisses dans le sous-sol. Il y a des gens, il y a des professionnels.
Okay, ouais.
Maintenant, ce qu'on doit valider, ce qui est le plus important avant d'engager quelqu'un qui a une capacité technologique ou une habilité informatique, c'est son comportement. On le voit, Desjardins, c'est un employé interne. Si vous n'avez pas un employé de bonne mœurs et vous n'avez pas, vous lui soumettez des informations extrêmement, vous lui confiez des joyaux, donc cette personne-là doit être hautement intègre. Vous confiez pas ça à n'importe qui. Maintenant, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, il peut être blanc à l'embauche, puis six mois plus tard ou deux ans plus tard,
ouais,
un problème de
ça.
Jeu, un problème de... Il a les clés de la voûte pareil, là. Et si les employeurs ne sont pas à l'affût du bruit que ces employés-là vont faire, parce que la vie, c'est pas uniforme, hein? Ça commence, vous commencez le marché du travail, puis il va arriver des épreuves, des divorces, des coups durs, des maladies mentales.
Ouais.
Donc, les employeurs doivent être à l'affût de ces changements-là de comportement. Et si c'est vos gens qui sont en sécurité informatique qui testent, parce que tester un système informatique, dès que vous faites des changements, des ce qu'on appelle en bon français des updates, des mises à jour, ben il va y avoir un changement de comportement. Vous pouvez développer des failles ou on va trouver des failles, des zero day sur certains équipements. Donc c'est constant.
Ouais.
Ce qu'on appelle des tests de pénétration, c'est constant.
Ouais.
Il faut que ça soit constant. Ça fait partie des routines de sécurité. Comme un gardien de sécurité en uniforme va vérifier les portes. Hein. Il y a une ronde, il y a une routine. Donc ces techniques-là font partie intégrante d'une infrastructure de sécurité informatique.
Merci, M. Laurier.
Ça répond à la question.
Oui, oui.
C'est un plaisir.
Merci, bonne journée. Paul Laurier, c'est un ex-enquêteur informatique à la Sûreté du Québec et président de Vigitech. Connais ton ennemi et connais-toi toi-même, nous dit un auditeur.
L'information, c'est le pouvoir. Monsieur Laurier a raison de dire que les données personnelles, c'est important justement pour les conflits entre États. On nous demandait au 25226, c'est quoi les peines pour vol de données personnelles? Donc, je suis allé voir du coin de l'œil sur le code criminel. Puis, dépendamment des infractions, on parle de peines de prison entre 5 et 10 ans. Mais combien de voleurs de données personnelles ont été condamnés? Est-ce qu'il y a des cas qui ont été médiatisés? Je suis pas capable de vous en nommer.
Le pire exemple, c'est probablement le plus probable, c'est celui de Desjardins en ce moment.
C'est ça.
Il est où?
Donc, au Canada.
Es-tu accusé?
Il va finir par l'être. On n'a pas d'informations. Puis j'ai l'impression que chaque fois, chaque début de semaine, on dit « Bon, on s'est rendu où avec ça? » On fait nos appels, puis non, pas d'informations. On est en train de procéder à l'enquête. On est en train de regarder ce qui se passe avec lui. OK. Donc, éventuellement, on va savoir ce qui se passe avec lui. Puis ça va être un exemple à suivre. Là. Ça va faire un peu jurisprudence, ce plaidoyer-là ou cette affaire-là, quand on va venir au terme. Là. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui disent « Ah, j'ai les capacités, je peux voler des données personnelles, on verra ce qui arrive », puis pendant ce temps-là, ils sont assez futés pour les vendre justement sur le dark web et tout, faire de l'argent avec ça.
5 à 10 ans, là, on s'entend-tu qu'en soi, là, c'est rien? Tu sais, rentrer chez quelqu'un, faire un vol par effraction, là, ça affecte une personne qui est traumatisée parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré chez eux en pleine nuit, ça affecte, une compagnie d'assurance va peut-être le dédommager, puis... Mais voler les données personnelles de 3 millions de personnes, c'est 3 millions de personnes qui sont susceptibles de se faire voler leur identité. Ça coûte une fortune à l'État, à l'institution financière, au système de justice, parce que ça va être extrêmement long. Puis on pourrait lui donner un 5 à 10 ans à peu près. C'est pas représentatif des conséquences réelles du geste.
C'est ça, ça dépend du cumul puis de ce qui va avoir été prouvé par la SQ quand ils vont arriver pour déposer des accusations avec le DPCP. Là, on verra rendu là, mais c'est vrai que 5 à 10 ans comme ça, là, ça paraît très peu.
Puis pour répondre à la question d'une auditrice, faites-vous un lien entre le gars et la fille là, qui ont été enquêtés parce qu'ils avaient exposé les données de 23 000 employés de Revenu Québec et l'annonce d'aujourd'hui. Ben, je sais pas à quel point nous on a les compétences pour le faire ou pas le faire, mais j'aurais tendance à penser que non.
Monsieur Laurier avait pas l'air de faire de lien entre les deux.
Non, c'est ça. Là, on parle plutôt de pirates informatiques. On sait pas ils viennent d'où, mais on a des théories là qui viendraient peut-être de l'étranger, compagnie. Mais bon, ça, on le sait pas encore. Là. Oui. Mais des pirates informatiques dont l'objectif était soit de voler les données, ou soit simplement d'ébranler l'institution. Parce que c'est ça que je voulais dire par « c'est-tu une nouvelle façon de se faire la guerre? » là. Oui, voler les données puis le renseignement, c'est le nerf de la guerre, mais... Il y a aussi des tentatives d'ébranler des démocraties. Là,
regarde ce que je suis capable de faire, puis aussi d'influencer le vote un peu. Là.
Regarde la fake news que j'ai mise sur mon compte Facebook. Tout le monde pense que c'est pas jouer au baseball.
C'est un peu vrai. On s'arrête dans deux hommes en onde, on revient, restez là.
Jusqu'à 14h, vous écoutez deux hommes.